Radio Okapi. Journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi.
Karim Khan qualifie d'inacceptable les souffrances auxquelles les populations de la RDC sont soumises en cette période. À la fin de sa mission à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré hier suivre de près la question relative aux diverses allégations de violation des droits humains dans l'est de la RDC. Karim Khan est aussi l'invité de ce journal. Vous le suivrez en long à la fin de cette édition. Les cours reprennent timidement dans des écoles de la ville de Bukavu au sud Kivu. Certains parents acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école, mais d'autres estiment que la sécurité n'est pas encore garantie. Bonjour à tous. À la fin de sa mission à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale a déclaré hier suivre de près la question relative aux diverses allégations de violation des droits humains dans l'est de la RDC. Karim Khan, dans un entretien avec Radio Okapi, qualifie d'inacceptables les souffrances auxquelles les populations sont soumises en cette période. Alors que les hostilités se poursuivent dans cette partie de la RDC, ce haut cadre de la CPI appelle tous les groupes armés et leurs alliés à se soumettre au cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il rassure que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités des acteurs impliqués dans divers crimes rapportés dans cette région. Karim Khan, procureur de la CPI, est au micro de Ronéline Tibonera.
We're very alive to the serious allegations coming out.
Nous sommes au courant de ces allégations présumées qui sont en train de se développer. Et la violence dans d'autres parties du Congo, historiquement, si vous me posez la question si nous sommes une force spéciale, la réponse est non. Nous ne sommes pas une force spéciale, nous sommes des juristes et nous sommes en train de cibler les gens qui commettent les crimes. Je l'ai dit clairement dans mes déclarations que toutes les parties, le M23 et les alliés, doivent aussi se conformer à la loi. Et nous avançons avec nos enquêtes. Donc, vos auditeurs doivent savoir que si nous disons quelque chose, nous tenons et nous allons avoir des résultats. Ce qui se passe à l'Est n'est pas acceptable et il paraît que les crimes visés par le statut des Roms sont en train d'être commis. Nous sommes en train d'analyser qui en est responsable. Et si nous obtenons des éléments de preuve qui en est responsable, nous allons agir.
Et puis, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, est attendu ce jeudi à Kinshasa. Annonce du porte-parole du secrétaire général de l'ONU hier au cours d'un briefing de presse à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il a expliqué que Jean-Pierre Lacroix débute son périple à Kinshasa où il va échanger avec des autorités congolaises ainsi qu'avec les partenaires internationaux sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces deux parties vont s'entretenir sur des prochaines étapes de la mise en œuvre de la résolution 27. 73 adopté la semaine dernière. Jean-Pierre Lacroix se rendra ensuite à Beni, dans le Nord Kivu, où il rencontrera les autorités provinciales, le nouveau commandant de la force de maintien de la paix de la MONUSCO, général de corps d'armée Ilus de Mesquita Gomez, ainsi que des soldats de la paix déployés dans cette contrée. Le 1er mars, le chef des opérations de maintien de la paix se rendra à Entebbe en Ouganda pour visiter le personnel de la MONUSCO qui a été évacué de Goma vers l'Ouganda le mois dernier à la suite de l'avancée du M23. À Kinshasa, le vice-ministre de la Justice sensibilise les ONG sur leur apport dans la protection des droits de l'homme à RDC. Samuel Mbemba a rencontré mardi dernier des ONG nationales et internationales de droits de l'homme et les a encouragés à dénoncer tous les abus en vue de voir les auteurs des diverses exactions répondre de leurs actes devant les instances judiciaires. Les propos de Samuel Mbemba recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons saisi l'occasion pour demander aux ONG d'aider les victimes à nous faire parvenir et à faire parvenir aux juridictions devant lesquelles les actions sont déjà ouvertes les preuves des exactions que le Rwanda commet dans notre pays. Et ce message est bien passé. Nous leur avons aussi demandé de ne pas négliger la dénonciation. Parce que dans l'histoire de notre pays, entre 1885 et 1908, 13 millions de morts. Mais à cette époque-là, les exactions avaient pris fin à cause de la dénonciation. Dénonciation organisée au niveau international avec les activistes dont Edmond Morel. Nous avons demandé aux ONG, aux droits de l'homme, aux institutions de défense des droits de l'homme, même qui sont venues de l'étranger, parce qu'il y en a eu beaucoup ici, de participer à la dénonciation de ce qui se passe dans notre pays.
Toujours à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, fustige la confiscation pendant plus d'une heure hier du passeport de Mgr Donatien Cholet par le service de la Direction générale des migrations DGM à l'aéroport de la Luano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Dans un communiqué publié sur son compte X, la CENCO condamne cette tentative de violation de la liberté de circulation d'un prélat de ce rang. La CENCO a tenu à souligner que, je cite, « ce genre de provocation ne favorise pas la recherche pacifique de la paix et de la cohésion nationale. Elle espère par ailleurs que ce genre d'incident ne se reproduira plus. La CENCO réaffirme également son engagement et sa détermination à continuer l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs aux côtés de l'Église du Christ au Congo ECC. Sachez que Mgr Donatien Cholet en compagnie du président de la CENCO, Mgr Fulgence Muteba, revenait des Dar es Salaam en Tanzanie où s'est tenue la réunion de la Conférence épiscopale d'Afrique centrale sur la recherche de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. À propos de la situation dans l'est du pays, l'UNICEF se dit profondément préoccupé par l'augmentation significative des signalements de violations graves commises à l'encontre des enfants dans l'est de la RDC. Le nombre d'incidents a triplé depuis le début de la dernière escalade de violence le 24 janvier 2025. Durant cette période, les données révèlent que les cas de violences sexuelles ont plus que doublé, les enlèvements ont été multipliés par 6, le meurtre et mutilation par 7 et les attaques contre les écoles et les hôpitaux par 12. L'escalade de la violence dans l'est de la RDC a entraîné l'effondrement des services essentiels. Des milliers d'écoles restent fermées, des enfants ont été séparés de leurs familles et l'absence de services de sécurité et de justice, ainsi que les combats, les évasions massives, les prisonniers et la prolifération d'armes exposent particulièrement les enfants. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté accuse le Rwanda et le M23 d'être à la base de la fermeture des écoles affectant plus d'un million d'enfants dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La crise actuelle a entraîné la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu, affectant 1,108,962 enfants. De nombreuses écoles ont été bombardées, détruites ou transformées en base militaire par les groupes armés, a dénoncé le ministère. Ce communiqué parle d'un climat d'horreur et de désespoir dans ces établissements scolaires situés dans l'est du pays. Outre cette situation déplorable, la sécurité des élèves et des enseignants est compromise, a précisé le document, signalant aussi la présence des engins explosifs dans certaines écoles dans l'est du pays, sans oublier le recrutement forcé des élèves dont les familles vivent dans l'insécurité permanente, ce qui rend difficile toute reprise normale des activités scolaires dans la ville de Goma. Et c'est dans ce contexte que reprennent timidement les cours dans des écoles de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Si certains parents ont le courage d'envoyer leurs enfants à l'école, d'autres par contre hésitent et exigent plus de garanties de sécurité. Des précisions avec vous, Rachel Kiesse.
Des grandes écoles de la ville ont repris les cours depuis lundi dernier, mais les élèves ne sont pas nombreux à répondre à l'appel. Ce parent dit avoir levé l'option d'envoyer ses enfants à l'école parce que certaines écoles sont présentement fréquentables.
Je n'ai pas vu, moi, personnellement, de raison pour retenir mes enfants à la maison pendant qu'il y a une partie d'élèves qui assistent aux cours. Encore que le jour où d'autres enfants reviendront, je ne crois pas que les enseignants auront le temps de rattraper tout le retard que les autres ont connu.
Oui, il y a la peur, mais j'ai vu que je ne peux pas sacrifier l'éducation de mes enfants. Je prends le soin de les accompagner le matin et dès qu'il est 12h20, je suis là pour les récupérer.
Cet autre parent, lui, ne veut pas que ses enfants aillent à l'école tant que la sécurité n'est pas totalement garantie.
C'est vrai, on a vu l'appel des chefs des établissements nous demanda d'envoyer les enfants à l'école. Mais moi, personnellement, je n'ai pas encore envoyé mes enfants. On ne sait pas encore ce qui se passe. Nous vivons dans la psychose totale. Personnellement, j'ai peur.
Je n'ai pas envoyé mes enfants le lundi 24 et le mardi 25 février parce que je n'étais pas sûre que les portes de l'école seront ouvertes.
Les autorités de la province éducationnelle Sud Kivu 1 invitent les enseignants, les parents et les gestionnaires d'école à la reprise effective des activités scolaire.
Situation humanitaire en Ituri. Plus de 30 000 ménages de déplacés victimes des conflits armés sont entassés à Komanda Centre à 75 km de Bunia depuis environ 4 ans. Il s'agit des personnes qui ont fui les exactions des ADF et d'autres groupes armés locaux dans la chefferie de Walese Vonkutu et le territoire de Mambasa, mais aussi dans la province voisine du Nord Kivu. Elles vivent dans des conditions difficiles, sans assistance humanitaire et n'ont plus accès à leurs champs. Une situation qui accentue leur vulnérabilité. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation humanitaire demeure alarmante pour des milliers de personnes, en majorité des enfants, des femmes, victimes de l'activisme et des groupes armés à Komanda, leur lieu de refuge au sud du territoire d'Irumu. Ces personnes ont été contraintes d'abandonner leur village à la suite des menaces permanentes des ADF et leurs supplétifs, mais aussi des groupes armés locaux qui terrorisent la population. Certaines sont venues des localités de Baha, Mungamba ou Lolwa, d'autres des entités de la chefferie de Walese Vonkutu, considéré aujourd'hui comme l'épicentre des exactions des rebelles. Selon le président de la société civile locale, toutes ces familles qui dépendent des activités champêtres vivent dans une précarité extrême à Komanda Centre, où elles ne peuvent plus aller au champ au-delà d'un rayon des 2 km de la route principale. Gustave Kakani.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas l'accessibilité dans nos champs. Ça cause préjudice à l'économie de notre milieu.
Suite au dialogue communautaire initié par le gouvernement provincial avec l'appui de la MONUSCO, mais aussi aux opérations militaires, plusieurs personnes sont déjà retournées à Boga, Tchabi et Walese Vonkutu, des zones où malheureusement des ONG humanitaires restent absentes. Depuis Komanda, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les informations diffusées à travers les réseaux sociaux créent la psychose au sein de la population. C'est ce qui est à la base de la tension observée le week-end dans la commune de Kanondo à Kisangani, province de la Tchopo. Le commandant de la 3e zone de défense l'a dit hier au gouverneur de province. Afin d'éviter ce genre de situation, la population doit être sensibilisée, dit-il. En outre, le lieutenant général Pacifique Masunzu rassure qu'il n'y a pas de rebelles à Kisangani. C'est ce que rapporte le porte-parole de la 3e zone de défense, Major Nestor Mavoudissa, dans ses propos recueillis. Accueilli par Jacques Moukonkolé.
Ils ont survolé toute la situation de la province et celle de la ville de Kisangani. Le commandant 3e zone de défense a bien rassuré le gouverneur qu'il n'y a pas de présence RDSM-23 à Kisangani et on ne peut pas s'inquiéter d'une quelconque attaque d'où qu'elle viendrait. Toutes les garanties ont été données et l'autorité a promis soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans tout ce qu'ils auront besoin pour les opérations militaires. Le commandant de la 3e zone de défense a sollicité l'appui de l'autorité du numéro 1 de la province pour sensibiliser la population. Tout ce qui a causé la psychose, c'est que les gens se mettent à véhiculer des instances de fake news, des informations non recoupées, non vérifiées. Quand nous avons les organes habilités, les organes officiels qui peuvent vous livrer les informations.
Le week-end dernier, des groupes de jeunes ont affirmé qu'un camion conteneur a quitté la ville de Kisangani avant qu'il ne soit ouvert pour un contrôle de sa cargaison. Il l'avait suspecté de transporter du matériel de guerre. En économie, la suspension momentanée des exportations du cobalt de la RDC offre des risques de perte des recettes liées à cette suroffre. En suspendant nos exportations, nous laissons le champ libre à d'autres pays qui sont dans la même situation que nous. Réaction du professeur de l'économie Goudempoy. Selon lui, seule la lutte contre la fraude, la corruption et le détournement nous aidera à trouver les recettes compensatoires. Emmanuel Elamejoa Kabedi.
C'est depuis le 22 février dernier que la décision de suspension des exportations du cobalt congolais est entrée en vigueur. La production de cobalt en RDC, qui fournit environ les 3/4 du cobalt utilisé dans les batteries de véhicules électriques, a fortement augmenté ces dernières années, ce qui entraîne une offre excédentaire, une baisse de la demande et une chute des prix. En réaction, le professeur Goudempoy parle de pertes importantes de recettes de l'État difficiles à combler.
Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, une telle mesure ne pouvait être efficace que si on travaillait en cartel. Lorsque nous prenons le risque de nous retirer de ces marchés, ça va avoir des répercussions sur l'IBP en 2026. Bon, évidemment, il faut trouver des nouvelles niches financières pour lutter sans concession contre la fraude, la corruption et le détournement, ce qui pourra nous permettre d'avoir des recettes compensatoires.
Signalons que le prix de référence du cobalt a chuté en dessous de 10 $ la livre, un seuil jamais franchi depuis 21 ans. Bien que l'interdiction d'exportation s'applique à tous les producteurs sans exception, elle ne concerne que les cobalts et n'aura aucun impact sur les exportations de cuivre, précisent nos sources.
L'invité.
Le procureur de la Cour pénale internationale a achevé hier sa visite à Kinshasa. Au cours de cette mission de 3 jours, le responsable de la CPI a rencontré différentes autorités et acteurs de la société civile pour s'enquérir de la situation liée aux présumés crimes commis dans l'est du pays. Karim Khan a indiqué que les enquêtes ont été lancées pour identifier les présumés auteurs des crimes contre l'humanité au pays en vue de répondre de leurs actes devant la loi. Le procureur de la CPI et l'invité du journal y répondent aux questions de René Tibonera.
Monsieur le procureur, vous avez rencontré le président de la République démocratique du Congo ainsi que d'autres autorités judiciaires du pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges?
Well, the meetings are confidential, but they were very constructive. I think there is a will.
Les réunions étaient confidentielles, mais elles étaient très constructives. Il y a la volonté du président lui-même, les ministres du gouvernement que j'ai rencontrés, y compris les procureurs et la société civile. J'ai rencontré les victimes pour forger un partenariat solide, pour travailler dans une nouvelle voie, pour se rassurer que les populations de la République démocratique du Congo peuvent voir ou expérimenter la justice, peuvent sentir la responsabilité. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai dit comme ça en l'air. En rapport avec les événements qui se passent à l'Est, les équipes sont déjà actives depuis le mois d'octobre. Au mois d'avril, le président va accueillir une conférence ici à Kinshasa et cela va concerner la création d'une cour spéciale pour la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en train d'envisager de faire une approche holistique, une nouvelle approche pour traiter ce cycle de violence que nous voyons en RDC. Et ce qui est en train de se passer maintenant à l'Est, et cela crée l'insécurité dans différents endroits. Nous sommes sérieux dans ce que nous faisons et nous allons travailler ensemble et nous devons avoir des résultats ensemble.
Monsieur le procureur, vous êtes en République démocratique du Congo. Bien sûr, les atrocités, les violations de droits de l'homme continuent dans l'Est, mais également dans d'autres entités. De manière précise et claire, quelles sont les dispositions concrètes que la CPI envisage?
Well, we're very alive to the serious allegations coming
nous sommes au courant de ces allégations présumées qui sont en train de se développer et la violence dans d'autres parties du Congo historiquement. Si vous me posez la question si nous sommes une force spéciale, la réponse est non. Nous ne sommes pas une force spéciale, nous sommes des juristes et nous sommes en train de cibler les gens qui commettent les crimes. L'État a la première responsabilité de protéger ses citoyens. Il y a différentes initiatives au niveau du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et au niveau des Nations Unies. Et ils appellent à un cessez-le-feu. Je l'ai dit clairement dans mes déclarations que toutes les parties, le M23 et les alliés doivent aussi se conformer à la loi. Et nous avançons avec nos enquêtes. Donc, vos auditeurs doivent savoir que si nous disons quelque chose, nous tenons et nous allons avoir des résultats. Ce qui se passe à l'Est n'est pas acceptable et il paraît que les crimes visés par le statut de Rome sont en train d'être commis. Nous sommes en train d'analyser qui en est responsable. Et si nous obtenons des éléments de preuve qui en est responsable, nous allons agir. Et nous avons besoin de l'appui international de sorte que si les juges prennent une décision, que cette décision sera appliquée. Donc c'est la seule arme que nous possédons, c'est la loi.
Certains acteurs au processus, là je parle de l'opposition, remettent en cause la légitimité du pouvoir actuel. Est-ce que quelque part c'est un caillou dans votre chaussure?
The United Nations recognizes the government.
Les Nations Unies reconnaissent ce gouvernement. L'Assemblée des partis États reconnaissent ce gouvernement. Et nous nous engageons avec eux. Ce sont les autorités souveraines qui ont la responsabilité de se conformer aux obligations internationales, y compris les responsabilités qu'ils ont dans les statuts de Rome. À la lumière de cela, la réunion, du moins la conférence du mois d'avril, sera très, très intéressante.
Récemment, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre certains acteurs de la rébellion, dont Corneille Nangaa. Vous avez un commentaire à placer, monsieur le procureur?
Non. The only comment is national authorities.
Le seul commentaire que je peux faire, c'est que les autorités nationales ont leur juridiction. La loi est là pour que les gens puissent se conformer. Les gens peuvent dire des choses à la cour. C'est tout ce qui se passe. Vous pouvez accepter ou vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui se passe dans le système judiciaire. Ben, c'est ça la situation. Je ne sais pas exactement quels sont les éléments de preuve qui ont fait qu'il puisse émettre ce mandat international. Donc je ne peux pas avoir un commentaire personnel là-dessus.
Comme qui dirait qu'il n'y aura pas une collaboration de la CPI.
Je n'ai pas dit cela. Je répondais juste à votre question.
Alors, comment la CPI prévoit-elle de renforcer la confiance de populations locales dans les systèmes judiciaires internationaux et surtout de garantir que les auteurs des crimes soient traduits en justice où qu'ils se trouvent?
No, we follow the law. That's the only guarantee I give.
Nous poursuivons la loi. Ça, c'est la seule garantie que je peux donner. Et nous allons faire de notre mieux pour nous rassurer que les mots que nous donnons ne sont pas juste du sucre, mais quelque chose sur laquelle nous nous appuyons. Donc, et que ce que nous disons doit être ressenti et cela doit être crédible et auprès de gens qui sont en train de pleurer maintenant que nous sommes en train de parler. Ces personnes peuvent être mes frères et sœurs, des enfants, donc qui sont terrorisés maintenant que nous sommes en train de parler. C'est une grande responsabilité. Je suis là. Nous sommes en train d'enquêter, nous avons une nouvelle approche et qui doit prouver notre propre responsabilité comme bureau et comme cour, mais et créer de nouvelles structures, par exemple la cour spéciale, et construire de nouveaux partenariats. Personne ne peut dire qu'il est semblable au niveau national ou la CPI. C'est un problème d'essayer sincèrement pour que la loi soit respectée par les gens et rien d'autre.
Karim Khan, procureur de la CPI, merci.
C'est la fin de ce journal. À la présentation, Noéla Luzitu Kabambi, la mise en onde est assurée par Billy Landry Betou. La coordination et la supervision ont été signées par Richard Junior Kamunga. Merci à vous tous de nous avoir suivis.